Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés pour cette nouvelle émission où, encore une fois, les événements nous forcent un petit peu à vous parler du pétrole. Il ne vous aura pas échappé, effectivement, depuis un moment que nous nous retrouvons dans les atermoiements d'une crise en Iran qui n'en finit pas d'en finir, puisque M. Trump, tous les deux jours, nous explique que ça y est, il a gagné la guerre et que ça y est, on va enfin s'en sortir, sauf que...
Sauf que les autres, ils continuent à bombarder, alors voilà. C'est pas si fini que ça, quoi.
Ça n'a pas l'air si fini que ça, et en attendant, les conséquences, pas mal de conséquences demeurent. Alors, à l'origine, je voulais vous parler des questions que vous avez posées sur différents supports, mais il se trouve que nous avons des informations qui viennent d'arriver aujourd'hui, à savoir que la moyenne mobile à 7 ans a cassé. Donc, Charles, vous avez vous expliqué un peu plus avant ce qu'il en est. Et avant toute chose, avant de commencer sur cette notion de moyenne mobile, on voulait vous montrer une petite carte, si le chien veut bien... Arrêtez de faire l'andouille pendant 2 minutes, parce que... Jeeves, ça suffit.
Allez, on arrête.
Bon. Et donc, on a une première carte.
On va vous montrer cette carte. Alors, elle est un peu compliquée, elle sera sur le site aussi, et puis vous la trouverez. Elle vient de mon ami Xavier Roffert, vous savez, avec lequel on travaille beaucoup. Et c'est dans le fond... l'origine, vous voyez, il y a le pétrole qui part là du centre de la carte à le détroit d'Ormuz qui est bloqué, et où il va. Alors dans le fond, quand vous regardez ça, vous rendez compte qu'il y en a assez peu qui part vers les États-Unis. Vous voyez, 0,6 millions de barils, c'est pas terrible. Et qui va plutôt en Asie, bien sûr, dans le fameux cercle de Valérie-Péry. Il va aussi en Afrique. Et il va en Europe. Vous voyez, c'est là. Alors, la première chose qui ressort de cette carte, c'est ce qui n'y est pas. C'est-à-dire, c'est l'Amérique latine, ils n'en ont rien à cirer, ils ont leur propre truc. Le Canada, il n'en a rien à cirer, ils ont leur propre truc. Et la Russie, bien sûr, elle n'en a rien à cirer. Donc, pour regarder ça, vous dites, donc, les points de vulnérabilité, c'est l'Europe, l'Afrique et l'Asie. C'est là où
mais l'Afrique moitié basse, parce que tu regardes en attendant toute la zone...
Oui, toute la zone en haut, ben là, ils ont leur propre pétrole. Là. Là, ils ont leur propre pétrole, ils reçoivent du gaz et du pétrole. Donc, ça veut dire que c'est là qu'il y a les tensions, quoi, qu'il va y avoir les tensions. Alors, on sait qu'il y a toute une partie du pétrole, c'est pas tout ce qu'ils reçoivent, parce qu'ils reçoivent beaucoup de Russie aussi, en particulier la Chine, il y a beaucoup de trucs qui descendent, et de l'Inde, il y a des trucs qui commencent à descendre aussi. Mais quand même... Ça vous donne des endroits où il y a des vulnérabilités. Ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. L'Australie est un petit peu embêtée parce qu'ils n'ont pas de stock. La Corée est embêtée parce qu'ils n'ont pas de stock. La Chine, ils ont un peu plus d'un an de stock, donc ils sont assez tranquilles. Nous, on n'a pas des masses de stock. Et les États-Unis, ils n'ont pas besoin de stock et ils sont autosuffisants. Mais ce que je trouve très étonnant, c'est que pour ainsi dire, rien ne va en Amérique latine. Donc... Ça veut dire que quelque part, l'Amérique latine, dans ce coup-là, ils sont pas très, ils vont pas leur rêver grand-chose, quoi. Ce qui est déjà une bonne nouvelle. Donc ça vous montre où les poches de vulnérabilité vont être. Alors maintenant, la deuxième chose que je dois vous montrer, c'est le graphique suivant. Vous savez à quel point on regarde l'énergie à l'Université de l'Épargne, à l'Institut des Libertés et à GAFCAL. Et ça, c'est la ligne noire, c'est le cours du pétrole, et la ligne rouge, c'est sa moyenne mobile à 7 ans. Vous savez, dans le petit livre qui est derrière moi, « Cessez de vous faire avoir », qui est là, que vous pouvez voir derrière, là, j'explique que, dans le fond, il n'y a rien de plus important que ça, parce que quand la ligne noire monte, ça veut dire qu'on transforme le pétrole de façon rentable, donc que tout va bien. L'énergie est transformée de façon rentable. Quand la ligne en baisse, ça veut dire que l'énergie n'est plus transformée de façon rentable, les gens perdent du fric. On vient de casser. Littéralement, attendez, je vais vous dire la date exacte, parce que c'est donc le 27 mars. Vous voyez, donc c'est tout récent. Alors, ça peut être... Regardez, par exemple, en 2009... En 1992, pendant la première guerre du Golfe, on avait eu un cassage très important, tu vois, ça s'était pété la gueule comme ça, mais ça n'avait pas duré, ça a été remonté tout de suite au-dessus. Donc, ça peut être un faux signal, parce que si la guerre s'arrête et que tout revient, ça peut remonter. Mais
ça n'a pas l'air de s'arrêter des masses, là, au moment où on parle, au 31.
Il n'y a pas des masses. Puis le détroit de Hormuz reste bouché, quoi. Alors, si on reste en dessous, ça va devenir difficile de gagner des sous, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est... Mais par contre, le portefeuille qu'on a, il est quand même 25% valeur pétrolière. Avec ça, on gagnera des sous. D'ailleurs, c'est ça qui nous a tiré, c'est ça qui nous a sauvé. Il y a l'or qui devrait se comporter à peu près convenablement après la chute qu'il a eue. Les actions en Asie, ça va peut-être un peu souffrir. Mais là, je vais vous montrer quelque chose. Pourquoi on avait des obligations japonaises? Tu vois, c'est... C'est toujours pareil. Vous avez des positions qui font rien, et puis un jour, on se comprend pourquoi elle les a. Donc là, si vous voulez, on rentre dans une crise énergétique, apparemment. Et les crises énergétiques, moi, je me souviens... J'ai encore une fois, toutes les gamelles que j'ai prises dans ma carrière, c'était quand la ligne nord passait sous la ligne rouge. Quoi. Et donc, ça ne m'a pas laissé que des bons souvenirs. C'est arrivé que 2 ou 3 fois, mais pardon, hein. Et si vous remontez, là j'ai remonté un siècle. Et vous voyez que, un siècle, quand la ligne noire est sous la ligne rouge, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent. Ouais. C'est très bien si vous n'en perdez pas, quoi. Donc, il se passe quelque chose. Est-ce que ça va être durable? On n'en sait fort rien, mais en tout cas, on ne peut pas nier que ça s'est passé. Donc, il faut commencer à ajuster. Alors, pourquoi le yen? Alors là, je vous montre un truc. Je vais vous montrer 3 graphiques. Ensuite, on passera aux questions, mais comme je vous l'ai expliqué tout le temps, Madame Watanabe, c'est quand même la dame qui a beaucoup d'argent à l'extérieur. Et quand la ligne noire passe sous la ligne rouge du graphique précédent, elle a tendance à faire revenir son argent au Japon parce qu'il n'y a plus rien à gagner à l'extérieur. Donc ici, vous avez le cours de change du yen contre l'euro. Et les lignes rouges, c'est quand vous avez ce que j'appelle une hausse anormale du pétrole. Tu sais, c'est 40% en 6 mois ou plus. Et donc, vous voyez que chaque fois que dans le passé, il y a eu une ligne rouge, Madame Watanabe fait rentrer son fric et le yen remonte. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
On le voit à chaque fois, paf, 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 ça s'est passé depuis 1975. Alors... est-ce qu'elle va le faire cette fois-ci? J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, à chaque fois dans le passé, elle l'a fait. Donc, la position en yens qu'on avait, c'était une position au cas où il y aurait une crise énergétique, que Mme Watanabe fasse entrer. Donc, c'était un coup de billard à 2 ou 3 bandes. Mais il semble qu'un peu comme les valeurs énergétiques, le yen, maintenant, il va peut-être devenir utile. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? On s'est demandé à ce qu'il foutait là. Les gens nous disaient, mais qu'est-ce qu'on avait fait à ce truc-là? Ça va peut-être être utile. Donc, à ce moment-là, on aura les valeurs énergétiques et le yen qui se débrouilleront, l'or qui devrait aller bien, et on n'a plus comme vulnérabilité que les actions...
que les actions
chinoises et en Asie. Bon, ça veut dire qu'on a 2/3 du portefeuille qui devrait tenir. Donc, ça ne nous... Il n'y a pas à avoir peur, quoi, voilà. Donc ça, le yen monte. Alors le deuxième graphique, c'est la performance du marché obligataire japonais en euros. Donc c'est-à-dire, je prends une obligation japonaise, je la mets en euros, et puis je regarde ce que ça fait pendant les mêmes périodes rouges. Et vous voyez, donc, vous voyez que chaque fois que Madame Watanabe commence à avoir la trouille, elle ramène le pognon, l'euro baisse, le yen monte, et puis vous gagnez de l'argent sur les obligations japonaises. Donc ça va peut-être expliquer pourquoi on a passé dans les obligations japonaises. Et le troisième, ben vous voyez qu'aujourd'hui, les obligations, c'est simplement la performance relative des obligations japonaises par rapport aux obligations françaises. Ben, vous voyez que, grosso modo, on est au plus bas depuis 1975. C'est-à-dire que si vous vendez une obligation française et vous achetez une obligation japonaise, vous faites au niveau le plus bas depuis 1975 et à chaque fois quand il y a eu un surage rouge, vous êtes monté. Donc, il n'est pas impossible que si le merdier énergétique se confirme, eh bien que le yen et les obligations japonaises viennent dans le, arrivent à maturité. Tu vois ce que je veux dire ? Pour l'instant, ça nous a coûté de l'argent, ça a baissé, on aurait pu faire mieux ailleurs. Mais maintenant, le truc important, en quelque sorte, les obligations japonaises, c'est antifragile. C'est-à-dire quand tout se pète la gueule, ça a tendance à monter. Donc c'est pour ça qu'on les avait, parce qu'avec l'or, parce que c'était les deux positions antifragiles. Et j'ai souvent dit qu'il fallait les mettre toutes les deux ensemble pour avoir une idée de la position défensive. Il fallait pas regarder que l'or. Et alors, comme l'or vient de se péter la gueule, ben, il n'est pas impossible que par sympathie, les obligations japonaises montent. Parce que du coup, comme les positions en or de Madame Watanabe ont dû baisser, elle va se dire, bon, ben, c'est, moi, je prends mes profits, maintenant, je me mets dans du 2,5% japonais, j'attends. Donc, le truc important, ce qu'on a dit, c'est que, et maintenant, on va passer aux questions qui sont importantes, mais c'est, les zones qui vont être touchées, c'est l'Europe, l'Afrique et l'Asie. L'Asie, il y a des solutions de rechange, mais en particulier en Chine, donc là, ça devrait tenir. L'Europe, je ne sais pas très bien comment ça va se passer. Et l'Afrique, on n'est pas investi dedans, donc c'est pas notre... La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que ça y est, j'ai le signe officiel qu'une crise énergétique a commencé. Maintenant, on va voir encore une fois combien de temps elle dure, mais enfin, elle a commencé, quoi. Maintenant, il n'y a plus de, on peut plus discuter. Donc, on en avait déjà parlé dans des émissions précédentes, mais ça veut dire que les taux d'intérêt vont monter. Et si les taux d'intérêt montent, je vois pas comment on va financer le déficit budgétaire français, surtout si l'Asie et le Moyen-Orient
C'est bien que tu en arrives là, parce que, évidemment, parmi les questions, une qui revient très souvent chez nos auditeurs, c'est « Mais alors nous, en France, Charles Gave, est-ce que vous pensez vraiment qu'avec une crise énergétique, quelles vont être les ramifications ?» sur les Français de cette crise énergétique qui arrive. Alors déjà, la première que tu constates, c'est qu'effectivement, les budgets ne vont plus passer. Parce que si les taux d'intérêt, on le sait que la charge de la dette est une des dépenses les plus lourdes, en tout cas en cash,
son roulement. Elle va monter, puisqu'il y a à peu près encore 40% du stock de dette qui a dû être émis avec des taux d'intérêt à zéro. Donc au fur et à mesure qu'on remplace par des taux d'intérêt à 4 sur ce 10%, pam, 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 pam. Donc les taux d'intérêt non seulement vont monter, mais aussi il y a le fait qu'une certaine partie de la dette arrive à maturité avec des taux très bas.
Augmente la charge.
Et alors en plus, ces imbéciles qui nous gouvernent, qui ont beaucoup augmenté les impôts dans le budget l'an dernier, tu sais, pour essayer de...
De colmater les trous, ça et là.
Se félicitent qu'ils aient eu des rentrées fiscales énormes. Et donc ils sont très contents, mais ils ne se rendent pas compte que ces rentrées fiscales, c'est des gens qui les payent, qui sont déjà à l'agonie. Donc tu vois, à cette augmentation des impôts qui a mis les gens dans une position impossible, tu vas ajouter une augmentation des prix du pétrole. Alors là, ils vont sauter comme des bouchons. C'est augmenter les impôts quand il y a une hausse des prix du pétrole, c'est ajouter le crime à l'assassinat, quoi. Tu vois, mais ils sont complètement fous, quoi. Donc voilà,
J'ai beaucoup entendu, et j'aimerais avoir ton avis, qu'il pourrait y avoir, à la rentrée prochaine, à cause de cette hausse du pétrole, une hausse très haute dans l'alimentaire qui serait déplacée, puisque...
Oui, parce que ce qui se passe, ce qu'on n'a pas dit sur cette carte, c'est que on a parlé du pétrole, mais il y a à peu près 30% des matières premières pour les engrais agricoles qui viennent aussi de cette zone, et qui sont aussi bloquées par le détroit d'Hormuz. Donc c'est le moment où on va planter. Et donc il est possible que les paysans, si tu veux, maintenant ils sont embêtés parce qu'ils se disent, bon, le prix des engrais augmente de façon phénoménale. Alors, on va retrouver le cycle du cochon, parce que si tu as un assolement triennal, tu sais, il y a le soja, lui il n'a pas besoin d'engrais quasiment. Donc ils vont tous faire du soja. Mais ça veut dire que le prix du soja dans un an va s'écrouler. Et là où ils n'ont pas fait de blé, où ils n'ont pas fait de maïs, ben, là, les prix vont monter beaucoup. Donc, tu vois, ça veut dire qu'il va y avoir un déséquilibre. Et le blé et maïs, c'est plus important que le soja. Le soja, ça sert plutôt à nourrir les bêtes.
Oui, ça sert à nourrir les bêtes.
Et le blé et le maïs, ça sert à nourrir nous, quoi. C'est surtout le blé. Donc, il n'est pas impossible que cet arrêt de l'exportation de matières premières qui servent aux matières premières... aux engrais agricoles déclenche une hausse des prix de l'énergie. Une
hausse des prix
de l'alimentaire. C'est tout à fait possible. Hausse des taux d'intérêt, hausse de l'alimentaire, hausse de l'énergie, ben, si tu veux, c'est les trois points de dépense de ce que j'appelle mes gilets jaunes.
Eh ben oui,
C'est là où ils dépensent tout leur fric. Donc, les pauvres gars, ils vont en ramasser, mais alors plein la tête. Hein, déjà, ils s'en sortaient pas. Quoi. Je me dis, ben, si les prix de l'alimentaire montent beaucoup, toute la partie du nord de l'Afrique, là, sur la carte, c'est là, par exemple, l'Égypte apporte énormément de blé de l'Ukraine. Mmh. Tu vois, bah, peut-être l'année prochaine, il n'y en aura pas, ou j'en sais rien. Donc, tu risques d'avoir des problèmes. L'Égypte est un pays qui a quand même 120 millions d'habitants, ce qui est incroyable. Sur un couloir de 3 kilomètres de chaque côté, là, du Nil, je ne sais pas où ils le foutent. Ça doit être. Et donc. En général, quand le prix de l'alimentation monte beaucoup, ça déclenche des crises sociales en Afrique, dans les pays les plus pauvres, en Asie, enfin bref. Tout ça est un petit peu inquiétant. Voilà,
J'ai une personne qui m'a posé une question sur l'eau, qui me demandait s'il ne pouvait pas y avoir une crise aussi autour de l'accès à l'eau.
Alors, l'accès à l'eau. Dans le Moyen-Orient, c'est pas un problème parce qu'ils ont d'énormes usines de dessalement. Comme l'énergie est pas chère du tout, ils dessalent beaucoup. En Iran, en Arabie Saoudite, ils dessalent énormément, donc il n'y a pas tellement de problèmes. L'endroit où tu peux avoir une crise de l'eau, il y a plusieurs endroits. Il y a entre la Turquie et la Syrie. Parce que la Turquie met un énorme barrage sur les trucs qui irriguaient les plaines syriennes. Du coup, il n'y a plus d'eau qui arrive. Et les Syriens, ils n'ont plus d'eau. Quoi. Donc là, c'est un vrai problème, ça, qui est. Parce que couper l'eau qui vient d'en haut, si j'ose dire, c'est une déclaration de guerre. Quoi.
Bien sûr. Bah, on en avait parlé aussi, on avait le problème entre la Chine et le.
Mais la Chine, si tu veux, contrôlant le Tibet, elle contrôle toute l'eau qui descend vers l'Inde, vers la.
Et ça peut toujours un problème.
Mais pour l'instant, les Chinois, j'ai pas remarqué, ils ont.
On les entend pas trop.
On les entend pas trop. Non, mais quand il y a des crises comme ça, les Chinois, ils disent bon, on bouge pas, les gars, on
non,
fait
mais
le gros,
tu sais,
on.
C'est le fameux proverbe ne jamais arrêter un ennemi quand il est en train de faire une erreur.
Voilà, c'est le truc de Napoléon. Et là, ils sont dans,
donc.
Ils se disent,
et donc, les Américains sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense que les Chinois doivent se dire oulala, il est urgent de les laisser.
Est-ce que dit Sun Tzu, là, qui était le grand stratège chinois, c'est que les guerres les plus intéressantes à gagner, c'est celles qu'on n'a pas déclarées, quoi. Et qu'on a gagnées sans les déclarer. Ils sont peut-être en train de déclarer la guerre sans l'aider. Parce que tout ce qu'on est dans. Regarde, par exemple, les bateaux peuvent sortir du détroit d'Hormuz, là, certains bateaux, à condition que le pétrole ait été payé
en renminbi. Mais cela dit, c'est vrai, mais j'en parlais avec Léonard, en réalité, sur les tankers qui peuvent passer, puisque c'est des tankers, il y en a 8 par jour, en gros. Et pour l'instant,
Ils viennent de laisser passer une dizaine pour le Pakistan, là.
Oui, mais le procédé qui permet de laisser passer les bateaux, il faut que le connaissement soit revu, qu'il y ait des tampons, et ainsi de suite. Donc c'est très long. Voilà, ils laissent passer, mais c'est vraiment au compte-gouttes parce qu'il y a tout un procédé de vérification. En amont, il faut envoyer, ils vont vérifier. Bon, c'est pas encore très fluide, mais bon, ça peut se mettre à être plus fluide.
Ce qui se passe aussi dans le domaine de l'énergie qu'il faut signaler, c'est que la crise au Moyen-Orient là, a détruit ou mis hors d'usage de services beaucoup d'énormes raffineries qu'il y avait là-bas.
Oui, on les a vues brûler.
Ça a brûlé. Et il y avait juste assez de raffineries pour raffiner le pétrole, à peu près 100 millions de barils par jour. Si tu en détruis 10 ou 20 de ces raffineries qui raffineraient, mettons 10 ou 20 millions, ben, les autres raffineries, le prix qu'elles vont prendre, donc les marges sur les raffineries sont à un plus haut historique parce que.
Parce qu'il y a
en quelque sorte plus de raffineries fermées que de pétrole qui ne peut pas sortir. Quoi. Donc ben, les marges montent partout ailleurs. Et Total a fait un plus haut hier en bourse parce que, ben, eux, il se trouve qu'ils ont des raffineries. Quoi. c'est un peu comme une épidémie, si tu veux, une hausse du prix du pétrole. Là, tu te dis, oh ben non, il n'y a que celui-là qui a la vérole. Et puis non, il y a le type d'à côté qui achetait du pétrole raffiné, donc il ne peut plus l'acheter parce que c'est beaucoup monté. Il y a du pétrole, mais il est monté, le fuel est monté de 30%, tu vois. Donc, boum. Et donc ça tape comme ça les uns après les autres, et c'était La Fontaine. Tous n'étaient pas atteints, c'était la peste. Tu sais,
oui.
C'était, il y avait un truc comme ça, là. Il y avait une phrase, c'était « Tous n'étaient pas atteints, mais... »
On retrouvera.
Vous le trouverez tout seul, d'ailleurs. Vous nous le mettrez sur le site.
C'est alors,
des animaux malades de la peste.
C'est ça. Tu as une question d'auditeur qui dit qu'à l'UDE et à l'IDL, on nous parle de la probable hausse des taux et donc de la baisse de l'or. Il s'agit donc...
La hausse des taux, oui, tout à fait, mais les gens assimilent la hausse des taux à la baisse de l'or. Alors, ça, c'est une notion très importante. Le pétrole monte. Qu'avaient fait la Suisse et l'Allemagne en 73-74, quand ça s'était passé, après la crise que je vous montre, là, ben, ils avaient laissé monter leur monnaie très fortement. C'est-à-dire que pour eux, en quelque sorte, le pétrole n'était pas monté puisqu'ils avaient compensé par la hausse de leur monnaie.
Suivant la fameuse technique, le pétrole n'a pas augmenté, je mets toujours 50 euros dans ma voiture aussi.
Voilà, c'est ça, exactement. C'était là. Ça, c'est des génies, mais enfin, bref. Et donc, maintenant, réfléchissons. Le pétrole monte. Il y a des pays qui ont des excédents d'épargne monstrueux. La Chine, la Corée, Taïwan, le Japon, tout ça, ils ont d'énormes réserves, des excédents d'épargne. Donc, ils peuvent laisser monter leur monnaie pour atténuer la hausse des prix du pétrole. Boum.
Encore que très rarement les pays asiatiques fassent ça. En général, ils adorent leur monnaie basse.
Mais maintenant, en plus, comme ils exportent beaucoup plus entre eux qu'ils n'exportent vers le reste du monde, à cause des facéties de monsieur. Trump et de la bêtise de l'Europe. Donc, ils se mettent à se vendre. Donc, à ce moment-là, ils ont intérêt à tous réévaluer ensemble, comme ça. Il n'y en a pas un qui devient plus compétitif, mais ils se vendent des trucs de bon. Donc, on peut penser que là, ils vont laisser réévaluer. Donc, il n'est pas impossible que dans ces monnaies-là, l'or ait fait son plus haut. Mais moi, je regarde maintenant l'Europe, je dis, attendez une seconde. Nous, on a des déficits extérieurs, des déficits intérieurs monstrueux, etc. Donc, comment on va faire monter nos monnaies, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si les Asiatiques cessent d'intervenir sur leur taux de change, les monnaies montent naturellement. Si nous, on cesse d'intervenir, elles baissent naturellement.
Oui, bien sûr.
Parce que tous les gens de l'Europe qui ont du pognon en Europe vont se dire « je vais aller le foutre ailleurs ». Non, ça me paraît... C'est ce qu'on leur dit, on n'est pas plus malin que les autres. Hein. Donc, ça veut dire que les taux vont monter en Europe, c'est sûr. Et comme ça va créer peut-être des problèmes de solvabilité de la France, pour les Européens, il ne faut pas vendre l'or. Pour les Asiatiques, il faut. Mais à partir d'un compte européen, il faut être fou comme un lapin de vendre son or aujourd'hui. Parce qu'il y a deux choses dans les taux d'intérêt. Il y a le return on capital, la rentabilité du capital investi, c'est les taux d'intérêt, et le return of capital, est-ce qu'on va te rembourser?
Oui.
En Europe, je ne suis pas du tout certain que tout le monde va être capable de rembourser. Quoi.
Oui, mais alors, dans une certaine mesure, on a vu M. Powell avant-hier, donc le directeur de la Banque Centrale de la Fed, intervenir sur une grande chaîne de télévision, et il a dit la chose suivante, il a dit que désormais, la croissance de l'économie américaine était moins haute que la croissance de la dette.
Et il a dit aussi, la Banque Centrale n'est pas armée pour lutter contre une hausse du prix de l'énergie.
Voilà.
Donc on ne sait pas faire.
On sait qu'ils ont un double déficit galopant aux États-Unis et une hausse de la dette incroyable.
C'est return of capital.
Voilà. Est-ce que les États-Unis n'ont pas aussi une question de return of capital? Mais était ma question.
Tout à fait. Alors l'avantage qu'ils ont, c'est que dans cette crise, ils sont équilibrés énergétiquement, ils n'ont pas besoin d'importer. Mais Ils ont quand même des déficits. Je te donne un exemple. Tu prends, tu ajoutes les dépenses sociales des États-Unis et le service de la dette, c'est-à-dire les deux trucs auxquels on peut pas toucher, étaient déjà quasiment à 108% des recettes fiscales américaines. C'est-à-dire que tout ce qu'ils dépensent dans la défense, c'est emprunté. Ils sont fous. 1200 milliards de dollars empruntés pour aller foutre des guerres. Et avec des trucs qui marchaient pas, parce qu'ils avaient envoyé leur plus gros porte-avions, le plus moderne, ils ont été obligés de le ramener.
Gérald Ford.
Ils ont été obligés de le ramener, d'abord parce qu'il avait probablement été touché par des drones, et surtout parce qu'on se rend compte que c'est ce que j'avais dit depuis des années, que ces gros porte-avions, ça sert plus à rien.
Non.
Puisque ça peut être détruit par un drone.
Par un drone.
Donc on voit avec plaisir que les crétins qui nous gouvernent veulent faire le France libre, là.
Bah ça y est, il est... En fait, bon, après...
Je veux dire que ça sert à rien.
Pour
ça sert à rien, on va dépenser 12 milliards dans ce truc-là, ça ne sert plus à rien. C'est vraiment bâtir une ligne Maginot, encore une fois. Mm. Mais ils sont vraiment des crétins, ils ont deux guerres qui viennent de se passer, l'Ukraine et maintenant celle-là. On se rend compte que les porte-avions, ça sert à rien, les Américains sont obligés de les mettre à 1000 km, comme ça les autres désinguent leurs avions ravitailleurs. Mm. Tu sais, donc ils ne peuvent plus... Les chasseurs qui étaient sur les peuvent plus aller bombarder l'Iran parce qu'ils ne peuvent plus faire l'aller-retour. Donc tu te rends compte que c'est un machin qui est complètement...
Obsolète.
Et le crétin qui nous gouverne annonce fièrement qu'il va construire un truc qu'il appellera la France libre alors qu'il a tout fait pour qu'elle cesse d'être libre. On a plus de souveraineté.
Ça, le nom de la France libre, moi, m'a fait beaucoup gloser. Et moi, ma théorie, c'est qu'il a donné un nom passe-plat pour qu'il se nomme le Emmanuel Macron à la séance d'après. Mais il a au moins eu la décence.
Personne ne va nommer un porte-avions.
Un truc obsolète, on pourrait.
Surtout qu'il a servi à rien et qui coûte très cher.
Ce serait parfait. Un truc qui dont on n'aurait pas besoin et qui nous coûterait un pognon de dingue. Écoute, au contraire, je trouve que c'est bien nommé.
Oui, c'est tout à fait. L'Emmanuel Macron, puis je pourrais pas imaginer. Ce marin qui sert sur l'Emmanuel Macron, il se tire une balle. Hein, parce que c'est quand même pas de le servir sur le Duc de Troyes ou le Redoutable ou le. Qui avait des bons noms de la marine française, le Redoutable, il y en avait plusieurs qui étaient bien, c'était la Tonnante, enfin il y avait les bateaux sous la royauté avaient des bons noms.
Tu as une question de Fantine qui te demande quel secteur ou pays faut-il regarder actuellement pour investir ? L'Inde est toujours trop haut malgré la baisse récente, point d'interrogation, ou la crise actuelle rebat-elle les cartes pour les points d'entrée ? Est-ce que pour toi, les secteurs couverts par les ETF indiens sont adaptés à la croissance attendue ?
Oui, alors on va regarder ça. On n'a pas encore donné de... On a dit qu'on regardait avec soin, mais on va essayer de regarder peut-être une espèce de combinaison Inde-Canada.
Ah oui, alors ça, tu sais qu'on a beaucoup d'auditeurs canadiens qui te posent beaucoup de questions sur le Canada.
On va travailler sur le Canada, parce que le Canada, dans tout ce merdier, ils sont autosuffisants énergétiquement, ils sont autosuffisants dans l'eau, ils sont à peu près bien. Ils sont fâchés avec les États-Unis, donc ils sont obligés...
On va investir massivement en Gaspésie.
On va acheter le Québec.
Je suis bien d'accord avec la grosse.
Il parlait de qui ? De la fille de la fille, là ? Je suis d'accord avec la grosse, ouais. Voilà, c'était bon. Donc, je veux dire, c'est que tu vois, tu pourrais envisager dans un souci d'équilibre de faire un portefeuille qui serait un peu Canada et Inde, parce qu'en effet, ça serait, il pourrait par la côte ouest filer pas mal d'hydrocarbures à l'Inde. Ce serait, il y a peut-être un coup à jouer là, tu vois. C'est
alors et si tu crois qu'ils Canada, vont le faire.
Ben, il faut qu'ils ouvrent. D'abord, ces corneaux, ils avaient fait des tas de pipelines qui partaient de leur champ pétrolifère vers les États-Unis. Puis maintenant, ils sont fâchés. Alors, les Canadiens disent, on va vendre notre pétrole aux Chinois. Alors, les Américains disent, si vous vendez votre pétrole aux Chinois, on vous parle plus du tout. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le vendre à l'Inde. Mais il faut d'abord qu'ils bâtissent les ports. Qu'ils envoient les pipelines, qu'ils fassent tout ça. Il y a quand même les rocheuses ici, c'est pas facile à passer.
Oui,
quoi.
Oui, oui.
Donc ça va être fait, mais voilà. Donc il y a peut-être un coup à jouer entre l'Inde et le Canada. Quoi. Puis en plus, si j'ose dire, il y a déjà la moitié des Canadiens qui sont indiens, donc ça créera des liens.
Ça, c'était pas forcément leur idée.
Toi, tu vois, l'autre moitié sera des Indiens d'ici quelques temps, si. Si on avait
laissé les pauvres, ils se sont pris un peu plus d'immigration qu'ils ne l'avaient souhaité.
Mais c'était leur génie, là, M. Trudeau, le fils naturel de M. Castro.
De M. Castro. Blague à part, tu sais, je ne sais pas si tu vois qui est la chanteuse Katy Perry.
Non. Moi, le truc.
Non, bon, c'était une chanteuse, tu sais, un peu genre pop, un peu en dessous de Madonna. Bon, enfin, bref, maintenant, ils se montrent en couple toute la journée. Donc maintenant, la vie de M. Trudeau, c'est de faire. Arm candy d'une chanteuse de pop. Voilà.
Mais j'ai remarqué qu'il y a quand même quelque chose d'extraordinaire qui se passe, c'est que nous.
Enfin, avant ça, il était barman, hein, donc.
Oui, ça va. Et professeur de gym dans un lycée. Mais ce qui se passe, c'est que tu considères qu'il y a des relations de plus en plus intimes entre les people et les politiques.
Ouais.
Tu regardes chez nous, ils sont tous, ils se connaissent, ils s'aiment.
Non, indépendamment de ça, il y a une vraie peopleisation de la vie politique aussi.
Ils sont devenus aussi crétins que les people, quoi.
Non, mais ils mettent, on l'a vu aux dernières campagnes présidentielles, et puis certains politiques font leur page Instagram, et puis se montrent, et puis font des trucs, font des petits clins d'œil, et puis font comment trouvez-vous une telle, et ainsi de suite. Tu te dis, mais c'est un vulgaire.
Voilà, non, mais ce qui est très étonnant, si tu veux, tu n'imagines pas le compte Instagram, je sais pas, de Pompidou, quoi.
Tu vois, Tantivonne.
Le compte Instagram de Tantivonne, ça aurait été. Tantivonne avec des dessous coquins, ça aurait été. Ça aurait été très.
Oh là là,
j'imagine pas.
Non, on n'imagine pas.
C'était une autre France.
Est-ce que, en regardant la situation actuelle, il serait possible que le yuan devienne, avec la demande de l'Iran, une monnaie chinoise, une pétromonnaie ?
Pétromonnaie, non, mais j'ai fait plusieurs articles, y compris dans dans l'Institut des Libertés, dans lequel j'explique qu'on ne va plus avoir besoin de monnaie de réserve, qu'un pays excédentaire comme la Chine va donner des swaps et donc va donner des financements directs dans sa monnaie. Et puis l'autre pays lui donnera des swaps aussi dans sa monnaie, comme ça la Chine pourra. Mais enfin, je décris les mécanismes, donc ça veut dire qu'on est en train d'aller vers. Il y aura une monnaie dominante ici, là dans il y aura sans doute une monnaie dominante en Asie, et normalement il y aurait dû avoir une monnaie dominante en Europe et peut-être en Afrique, si c'était le Deutsche Mark, mais ils ont créé cette imbécilité de l'euro qui empêche tout ajustement. Donc logiquement, ici, c'est un territoire ouvert, quoi. Je ne sais pas ce qui va se passer là, parce que normalement, tu as une monnaie dominante qui ouvre, celle qui a les excédents d'épargne et qui ouvre des swaps à toutes les autres monnaies. Mais maintenant, la monnaie dominante qui était le Deutsche Mark, elle a pas assez d'argent,
J'ai lu cette semaine qu'il y avait une série de récessions, de dépôts de bilan sans précédent en Allemagne, et je ne vois pas avec comment avec un coût du pétrole qui va augmenter. Alors j'ai vu que là en France, ils ont pris comme mesure absolument formidable de décréter qu'il serait désormais possible pour les entreprises qui auraient des difficultés d'approvisionnement en pétrole, en énergie, de mettre leurs salariés en chômage partiel. Donc la réponse du gouvernement à cette crise n'est pas de pourvoir ou de baisser les taxes qui représentent, mettre les gens en demi-confinement.
Demi-confinement, mais on va payer, qui va payer, c'est l'État, c'est pas grave, ça coûte pas d'argent, parce que c'est l'État, comme disait ce crétin de Hollande. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose qui est extrêmement important, c'est que il n'y a plus de pays dominants en Europe qui a un excédent d'épargne. Il y a la Suisse, mais ils sont beaucoup trop petits.
Et un petit peu des pays nordiques.
Un peu les pays nordiques, mais enfin, c'est des pays de 7, 8, 9 millions d'habitants.
Oui, voilà, ils sont petits
et
aussi.
Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'appareil industriel qui était dominant en Allemagne, au centre de l'Europe, est en train d'être laminé par l'Asie du Sud-Est, parce que les prix ne sont pas normaux, etc. Donc, ici, on a donc un très gros centre de consommation en Europe, mais on n'a plus un seul pays qui a l'excédent d'épargne qui peut transférer aux autres pays avec des réévaluations, etc. Donc je regarde ça, je me dis, là, c'est à cause de l'euro, encore une fois, c'est un machin qu'on ne peut pas organiser. Tu vois qu'il y a un truc qui empêche d'être organisé. Là, ça va s'organiser. En Afrique, les Chinois vont aider à organiser. À mon avis, ils vont essayer de voir s'ils ne peuvent pas faire une grande zone ici, quoi. Ce serait... Et puis bon, les États-Unis, c'est auto-organisateur.
Est-ce que tu penses que ça peut aider des coins comme Madagascar ou des coins comme ça?
Ben oui, parce que bien évidemment, parce que le problème de Madagascar, si tu veux, c'est que c'est un problème encore une fois de, ils ont des tas de ressources, il y a pas de problème. C'est un pays qui devrait être envahi par les touristes aussi. Parce que c'est incroyablement beau, mais...
Après, t'as des moustiques qui t'en parlent, hein.
Oui, il y a des moustiques qui t'en parlent, mais en fait, là, le vrai problème, c'est qu'il n'y a aucune sécurité juridique, tu vois, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de sécurité juridique, tu ne peux pas investir à long terme, quoi, donc... il faudrait qu'un type comme Lee Kuan Yew prenne le contrôle de Madagascar, et en 40 ans, en 30 ans, ce serait fait, quoi, mais... Lee Kuan Yew, c'est celui qui a créé Singapour. Toutes pièces. Donc, si vous voulez, ce que je vois très bien, c'est la zone monétaire asiatique. Oui, ça, je la vois émerger. La zone monétaire dollar va se replier vers l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, j'imagine. Et la zone monétaire qui aurait dû être la zone monétaire européenne avec le Deutsche Mark et la Citi, en quelque sorte, qui aurait travaillé... Ben ça, c'est cette imbécilité de l'euro a empêché de la créer.
Et Keir Starmer, en ce moment en Angleterre, fait des grands efforts pour essayer de tirer son pays un peu plus vers le bas qu'il l'avait fait par le passé. Font face aujourd'hui à un manque de pétrole aussi. Et donc,
alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils sont voisins, ils ont les champs voisins avec la Norvège, qui fait des trous tout le temps pour trouver du gaz et en trouve partout, mais les champs pétrolifères anglais sont là, et que le Labour et les
écolos,
les conservateurs aussi, qui étaient écolos aussi, refusent d'aller faire des trous pour pas abîmer la planète. Donc, si tu veux, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que l'Angleterre pourrait, si elle s'était mise il y a 5 ans,
avait des trous en mer du Nord.
Elle a mis des impôts à peu près de 80% sur tout ce que tu gagnais en mer du Nord. Donc plus personne ne fait de trous. Donc, si tu veux, c'est vraiment...
Parce qu'il y a 20 ans,
ça, c'est
là,
tu peux parler, c'est la, cette zone qui est là en Europe, tu peux l'appeler la zone du suicide économique, écolo. Écolo et imbécile. Donc, démocratiquement, imbécile. Donc là, je sais... Le vrai problème qu'il y a, c'est que là, il n'y a pas de solution. Dans les... structure actuelle de Bruxelles, de l'euro et de l'écologie, je vois pas. Donc il faut rien avoir dans la consommation ici.
Alors, tu as un auditeur qui te pose la question, même si elle coule de source, mais c'est pas grave, on la pose quand même. Donc Charles, vous nous déconseillez d'acheter des obligations par les temps qui courent.
Des obligations ? Dans la zone ici ou dans la zone là, en Europe ou aux États-Unis, vous pouvez avoir
sachant
des obligations là-bas.
Sachant par ailleurs que quand on parle d'obligations chez nous, c'est toujours des obligations d'État. Quand ça sera des obligations d'entreprise, on le spécifiera. Mais partez du principe, quand on parle d'obligations, c'est des obligations d'État, on ne touche pas aux...
Mais vous pouvez avoir... La question, c'est...
Et donc la question, c'est... est-ce que tu peux réexpliquer pourquoi les obligations japonaises sont une bonne idée et est-ce qu'on les garde toutefois ? C'est ce que tu as fait tout à l'heure.
C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Ben parce que maintenant, on arrive dans une crise et que c'est là qu'elles vont montrer leur talent. Si ça se passe. Parce que vous savez, dans ce métier, on se dit ça s'est passé 10 fois, donc ça va passer à la 11e, mais la 11e, ça se passe pas.
Oui, on a l'air d'un crétin.
On est
misérable.
Et on est misérable. Donc, logiquement, je vous dis, ça s'est passé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Cette fois, sur les 50 dernières années, allez, ça recommence. C'est au plus bas, donc logiquement, tu te dis, ça va se passer, mais aussi bien, ça va pas se passer. Tu vois ce que je veux dire? C'est que dans ce métier, vous ne travaillez qu'avec des probabilités.
Oui.
Vous travaillez pas avec des certitudes, donc... Je me dis, là, c'est probable que ça monte. Déjà, nous, on a eu du pot, parce que nos portefeuilles ont été tirés, ce qu'on attendait. Un par l'or et deux par les valeurs énergétiques. Donc ce serait le pied si maintenant le Japon se mettait au boulot, quoi.
Est-ce que tu pourrais réexpliquer aux gens, parce qu'il y a beaucoup de questions autour de ça, pourquoi l'or a fait ce qu'il a fait ? Parce qu'on s'attendrait dans une crise comme ça, au contraire, à ce que l'or surperforme. Or, pourquoi il a yoyoté comme ça ?
C'est des raisons de marché.
Oui, mais les gens n'ont pas compris.
Ils n'ont pas compris, mais je vais t'en donner une qui est assez rigolote, c'est... la Turquie a une monnaie qui se pète la gueule. Donc, pour avoir des monnaies sérieuses, mais elle a beaucoup d'or. La Turquie a beaucoup d'or. Elle a mis une partie de son or en dépôt des banques centrales, puis elle a emprunté, je ne sais pas, monnaie saoudienne ou n'importe quoi, en mettant son, en donnant une garantie. Et puis, quand la crise, donc, et les taux d'intérêt en Turquie étaient censés couvrir sans arrêt la différence d'inflation, tu vois, c'est-à-dire qu'ils payaient. Mais quand la crise a commencé, les gens sont dit, oh là là, ils importent du ils sont très gros importateurs de pétrole, etc. Ils ont, et donc, la Turquie, la monnaie turque s'est pété la gueule. Et donc, la banque centrale qui avait donné ses réserves d'or à la banque centrale XY ou Z là-bas, ben, comme c'était plus couvert par les réserves d'or, ben, l'autre banque centrale, elle a vendu l'or. Tu vois ce que je veux dire? C'était un appel sur marge. Il y a eu un gigantesque appel sur marge qui a été fait sur la Turquie. Et pof, ils ont vendu, les autres ont vendu l'or en disant, ben, la Turquie a dit, je suis désolé, je peux pas vous payer. Mais ils ont dit, ben, pof, on vend l'or, quoi, pof. Pitié. Ils ont probablement racheté eux-mêmes.
Hein. Oui.
Ils l'ont fait baisser d'abord de 20%, puis ils l'ont racheté derrière. S'ils sont des gens compétents, mais enfin, parfois les banquiers centraux sont compétents. Pas toujours, malheureusement, mais. Donc, c'est ce qui s'est passé. Un autre truc, c'est que vous aviez des positions absolument gigantesques en levier. Vous savez, quand un truc. Et l'or, ça, les gens me font rigoler, mais l'or, il est encore en hausse, je crois, de 48% d'une année sur l'autre. Donc, quand quelque chose monte de 48% d'une année sur l'autre, tu pleures pas, quoi, tu vois. Mmh. Mais comme ça montait tout le temps, que personne. Y avait, ça ne s'arrêtait jamais, il y a des gens qui ont pris des positions en empruntant les trois quarts du pognon, en n'en mettant qu'un quart, et puis en achetant le reste. Donc, comme ça, ils gagnaient beaucoup plus encore. Mais ça, c'est très joli. Mais quand ça se renverse, tu reçois un appel de ta banque en disant, dis donc, ce qui est arrivé à la Turquie, dites, où je vends votre or, où je vous liquide. Le type, il est liquidé. Donc, il y a des gens, je suis sûr, qui ont réussi à perdre de l'argent dans l'or depuis un an.
Mais oui, bien sûr.
Et soit qu'ils ont acheté le dernier jour,
voilà.
Soit qu'ils ont mis deux ou trois fois leur mise, et puis quand ça s'est pété la gueule de 20%, on les a raclés.
Et là, j'en ai tous les jours qui me disent que je dois vendre mon or, est-ce que je dois vendre mon or?
Non.
Paniqué.
Vous êtes en Europe, et donc l'Europe...
Donc, le monde garde son or, est-ce que c'est bien compris?
Tranquille. voilà. Tout le monde garde son or, et puis on va voir ensuite... ce qu'on peut espérer, c'est que votre portefeuille, il a trois parties stables, l'or, les obligations japonaises, les valeurs pétrolières. Et on avait une partie un peu inférieure à ce qu'on aurait dû avoir en actions. Bon, alors maintenant, si les trois, si le marché japonais se met à donner hypothèse, à ce moment-là, on va avoir beaucoup trop d'antifragiles et pas assez de fragiles. Donc, il va falloir acheter des actions pendant qu'elles se pètent la gueule. Ça ne va pas être facile.
Il va falloir trier le bon grain de livret et on verra à ce moment-là.
C'est un problème pour demain, mais c'est un problème auquel il faut réfléchir aujourd'hui. Parce que le vrai problème dans la gestion, c'est qu'on vous a bâti un portefeuille pour se dire il y a une crise comme ça qui pourrait arriver. Manque de peau, elle est arrivée.
C'est-à-dire que M. Trump se donne beaucoup de mal année après année.
Il est en train d'essayer de me faire gagner de l'argent, ce garçon. Et donc, bon, ça marche. Mais maintenant... Ce qui est embêtant dans ce métier, c'est pas parce que ça a marché que ça va continuer à marcher. Donc, il va falloir maintenant faire remonter nos portefeuilles vers une position normale en action. C'est-à-dire avoir 50% en action. C'est pour ça qu'on va regarder le Canada, qu'on va regarder l'Inde, parce qu'on en a déjà en Asie.
Ouais. Tu as des auditeurs qui te posent la question de savoir quand tu parles d'or, est-ce que tu parles d'or papier ou d'or physique ?
Pour l'instant, c'est pareil. L'or physique, comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, ça a quand même des tas d'inconvénients de coûts, de conservation, de taxation, etc. Le papier, c'est plus simple.
Tu as une question de Guillaume qui te demande, étant donné la crise actuelle et celle potentielle dans les jours et les mois à venir, est-ce que tu penses que cela peut avoir un impact sur les systèmes bancaires et deux, sur les prêts immobiliers en cours et donc l'immobilier?
Les systèmes bancaires, oui, probablement. D'ailleurs, les banques ont pas mal plongé depuis que ça a commencé, hein, les banques françaises. Oui, les banques, parce qu'elles vont aussi...
Les banques, attention, les banques françaises, parce que les banques asiatiques, a priori, ça va bien se passer très bien.
Oui, vous pouvez acheter, vendre de crédit lyonnais, enfin, la société BNP, acheter HSBC.
HSBC en compte,
ça passe très bien. Donc, et en ce qui concerne l'immobilier, je crois que la baisse de l'immobilier dans des coins comme ça, quand ça s'est écroulé, comme, je sais pas, quand ça s'est écroulé en Amérique latine, etc., à Rio, dans les années 80, ça s'est passé par le change. C'est-à-dire que le taux de change s'écroule, et donc toi, si t'es un Brésilien qui a mis son pognon à Miami, tu peux acheter ton immobilier beaucoup moins cher. Mais pour les locaux, ça,
oui, ça reste pareil.
Je veux dire, ils sont, enfin, comme ils sont appauvris, eux, ils ne peuvent toujours pas acheter l'appartement.
Toujours pas acheter. Et c'est ce qui va. C'est ce qui se passe déjà en France. C'est-à-dire que quand tu regardes le prix à Paris de certains appartements, là, je suis encore passée. C'était un 270 mètres carrés, certes, avec une grande terrasse. Dis un prix vu sur la Tour Eiffel.
3,5 millions.
7,7 millions. Bon, il est bien évident que...
Ça veut dire que c'est à plus de 30 000 euros le mètre carré.
Ouais. Alors, bien de prestige, j'en sais rien. Enfin bon, bref, c'est l'agence Breteuil, quand je passe devant...
Il n'y a plus que ça maintenant. Il y a des vendeurs de kebabs,
Une pharmacie et une agence immobilière.
Un vendeur de kebab et une pharmacie.
Et comme mon chien aime particulièrement l'arbre en face de cet endroit, j'ai le temps de bien regarder les annonces et tu vois ce que je veux dire.
Les prix, c'est extraordinaire. J'en ai vu qui étaient à 20 000 euros du mètre carré.
On est bien d'accord qu'aucun salaire français ne peut acquérir ce genre de bien et que donc c'est par le change qu'on voit la différence. Et c'est bien là, ces prix-là demeurent parce que des tiers venus d'autres pays les achètent à ce prix-là.
Mais s'ils ont gagné de l'argent gros comme eux là-bas, en Asie, ils se disent tiens, ma femme aime bien Paris, un bel opéra, je vais m'acheter une maison.
Oui, et puis
paye en cash. Hein.
Et une maison avec vue sur la Tour Eiffel, ça ne se dépréciera pas. Et bam. Et en attendant, c'est ça qui tient le marché, faisant que ensuite, petit à petit, les locaux ne trouvent plus à se loger. Avec nos euros à nous.
J'ai vu quelqu'un, je sais plus comment. Oui, je crois qu'il travaillait à Paris et qu'il habitait à Tours. Qu'ils allaient aller-retour tous les jours.
Plein de gens à Orléans, bien sûr. Ouais. Quand on est allé au Mans, il y avait plein de gens. Quand on est allé au Mans, on a pris le train du matin.
C'est 55 minutes de train. Bon,
alors après, il faut que ça fonctionne depuis Montparnasse. Mais sinon, oui, c'est une gare. Ouais. Elle est dans Paris, tu es tout de suite là et tout. Ben, bien sûr.
Du train, ouais. Donc, si vous voulez, là aussi, il y a des prix anormaux en quelque sorte. Le yen est beaucoup trop bas, ça, d'accord. Mais l'immobilier à Paris est beaucoup trop haut parce que les Français ont envoyé toute leur épargne là-dedans, plus les étrangers pour les quartiers de prestige. Et donc, vous avez des prix qui, aujourd'hui, sont faux. Et c'est la conséquence un petit peu des taux d'intérêt bas dans l'euro. Donc, tout ça, on peut dire que c'est les résultats de décisions prises par des gens qui n'avaient pas normalement le droit de les prendre, c'est-à-dire qui manipulent les monnaies, qui manipulent les taux de change, parce qu'ils savent mieux.
Alors, tu as Gaëtan qui te dit la chose suivante. Merci pour toutes vos vidéos que je suis maintenant depuis plusieurs années. Travaillant moi-même dans les marchés financiers, je remarque de plus en plus de décorrélation du marché avec la réalité. Les taux actions bougent fortement aux annonces de Trump, peu aux annonces économiques réelles, ou du moins plus faiblement. Peut-on espérer un jour un retour à la normale? Car sans un marché en lequel nous avons confiance, un rebond sain sur des bases solides ne peut avoir lieu.
C'est une remarque très importante, c'est que ce dont parle Gaëtan, c'est simplement du bruit. C'est-à-dire quand les marchés sont décorrélés de la réalité, comme l'immobilier, etc., vous avez à ce moment-là la seule chose qui fait bouger les marchés, c'est des annonces. Mon Dieu, c'est effrayant, tu vois. Essayer d'engendrer la peur ou la peur de rater un coup, tu vois. Et c'est pour ça que nous, on ne fait pas du tout ce genre de bruit, on ne regarde pas, on n'investit pas, on s'en fout de ce que dit M. Trump, ça ne change rien.
Mais, de toute façon, il a un avis tous les 6 heures.
De toute façon, il change tout le temps. Mais, on ne regarde pas. Mais ce qu'il dit est important, c'est-à-dire qu'il faut essayer de continuer à investir sur ce que j'appelle les tendances lourdes. C'est-à-dire les choses dont personne ne parle, mais qui sont réelles.
Oui, donc ça demande deux choses. Un,
d'abord, d'avoir lu mon dernier livre.
S'extraire du bruit. S'extraire du bruit et de réussir effectivement à identifier les dites
Et pas s'énerver parce que ça a bougé. Alors je signale quelque chose qui va peut-être jouer, c'est que j'en discutais avec Didier hier. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le VIX. Vous savez ce que c'est que le VIX? C'est l'indice de la peur, quoi. Alors Didier me dit, d'après tous les travaux qu'il a fait, c'est que le VIX dépend beaucoup du cadran. C'est-à-dire, si tu as un VIX à 40, on va dire juste ces gens très forts, etc. Quand on est en bas à droite et qu'il n'y a aucun risque, tu t'en fous complètement. Mais si tu as un VIX à 25 quand on est à gauche, il faut partir au galop, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut bien se rendre compte que les outils pour mesurer la peur, le risque, l'émotion, etc., n'ont pas la même puissance selon l'endroit où vous êtes dans les quatre cadrans.
Ça paraît tout à fait logique.
Ça paraît tout à fait logique, mais il a mesuré.
Certain qu'une exposition au soleil en hiver pendant une heure n'est pas la même qu'une exposition au soleil une heure en été. Voilà. Donc, si tu es en haut à gauche, tu es en été, tu n'as pas de protection solaire, tu vas prendre cher.
Moi, j'ai été le plus gros coup de soleil que j'ai pris de ma vie. C'était à Guam, qui est une île dans le Pacifique. Je m'étais foutu...
À Londres,
sous un parasol et tout. Mais il y avait, c'est la mer qui avait réfléchi. J'étais un homard. J'avais été jamais au soleil. Donc, tu peux être râpé des coups de soleil sans avoir jamais été au soleil, quoi. Donc, je veux dire par là, c'est que il va... Alors, il y a aussi autre chose qui se passe, c'est que les corrélations n'existent plus, c'est vrai. Mais quand les marchés se pètent la gueule... Normalement, vous avez ce qu'on appelle les queues de distribution. Tu sais, soit ça monte beaucoup très fort, soit ça baisse beaucoup très fort. Hein. C'est les queues de distribution, c'est là-bas, à gauche et à droite. Et alors, normalement, il n'y a pas de relation entre le cours de Coca-Cola et le cours de Nvidia. Tu vois, ils sont pas corrélés, ils bougent indépendamment l'un de l'autre. Mais dans les queues de distribution, tout se corrèle. C'est-à-dire, à ce moment-là, tout monte en même temps ou tout baisse en même temps. Et à ce moment-là, la diversification par les actions... Ça sert plus à rien. C'est-à-dire que la théorie moderne du portefeuille où vous diversifiez en une vingtaine d'actions et tout va bien, ça marche très bien, sauf quand on a besoin. Donc quand ça se pète la gueule, alors là, ça marche plus du tout. Tout se ratatine. Donc c'est pour ça que nous, on essaye de faire des divisions dans des actifs différents et ailleurs pour éviter ce phénomène de contagion. Donc il n'est pas impossible que sur l'Europe et les États-Unis, on rentre dans une de ces queues de distribution. C'est souvent ce qui s'est passé pendant les périodes énergétiques comme ça. Et qu'à ce moment-là, la partie action risque de se viander.
Oui,
indépendamment de toutes les valeurs qu'il y a sous-jacentes.
Oui, c'est ça, parce que ça va être le marché des actions qui va dévisser et non pas Total qui dévissera ou Colgate. Les actions individuelles. Et donc, vous auriez pu faire le meilleur stock picking du monde. Ce que vient d'expliquer Charles, c'est que de toute façon, toute la ligne tombera parce que
le marché
tombera.
La seule chose qui dans une grande baisse, c'est la corrélation. La corrélation entre les actions. Moi, je me souviens, et pourquoi? Parce que les gens qui ont acheté des trucs. Il y a aussi autre chose qu'il faut dire sur l'immobilier. C'est qu'il y a beaucoup de gens, en particulier aux États-Unis, mais
qui ont pris des gros leviers.
Qui ont pris des gros leviers en empruntant sur leur immobilier pour acheter des actions. Alors là, c'est un truc qu'il faut jamais faire, ça.
Il y a ça dans les marchés, qui arrivent beaucoup. Il y a le fait aussi.
On va voir qui nage sans maillot, hein.
Des private equity dans les grands trucs qui sentent le renard.
Voilà,
il y a les gens qui empruntaient en levier, il y a tout ce qui appelle de marge.
Toutes les
compagnies.
Fausses banques.
Voilà,
les fausses banques qui ont été créées, qui ont fait du travail bancaire sans avoir les fonds propres. Ce qu'on appelle les fonds de crédit, là, il y en a un ou deux qui commencent à fermer chez BlackRock.
C'est des petites baleines sur le ventre qui pourraient ressortir à la surface à tout moment. Et entraîner, on ne sait pas trop quoi avec.
Voilà, et entraîner parfois des grosses baleines. Donc, en principe, si vous voulez, ce que je dis toujours, en rigolant, mais pas tellement, c'est dans toutes les périodes rouges, vous savez, où il y a eu des hausses anormales du pétrole, en principe, c'est comme une explosion sous-marine. C'est-à-dire que vous avez une explosion sous-marine. Et là, vous voyez d'abord les petits poissons monter, puis ensuite les baleines. Donc, il y a peut-être une explosion sous-marine qui est en train de se produire. Et à chaque fois que ça s'est produit, j'ai dit, il va y avoir une baleine qui vont monter. Et à mon avis, c'est la Pologne, l'Argentine ou je sais pas quoi. Et c'était jamais ça. C'est-à-dire que je vois arriver le coup, il va y avoir une baleine qui va monter. Mais je sais jamais quelle baleine, parce qu'en principe, c'est une baleine qui a bonne réputation, qui saute. Ça surprend tout le monde, tu vois.
Quand c'était Dexia.
Oui.
Dexia, voilà. Tu l'avais attendu depuis un an. Quand elle a sauté, tu l'avais dit.
Ben, j'avais dit aussi à un moment à ton frère, je sais pas qui va sauter le premier, si c'est General Motors ou si c'est l'Argentine, quoi. Tu vois, c'était un truc.
Oui.
Ils ont sauté tous les deux d'ailleurs. Non, mais il y a vraiment Paname. Il y avait aussi Paname.
Ouais, Paname. C'est dommage, elle était bien. Moi, j'avais une affection pour Paname parce que quand on est parti aux États-Unis pour la première fois, quand on était enfant, on est allé acheter un week-end les billets à Paname qui étaient sur. près de Piccadilly Circus. Oui, oui, et après, on avait pris. Oh, j'aimais beaucoup Paname.
Ouais, moi, j'aime beaucoup Paname aussi. Et puis, j'aimais beaucoup Paname. Puis, elle avait un avion qui faisait le tour du monde. C'est-à-dire qu'on pouvait prendre un tour du monde. C'est-à-dire que une fois que vous étiez arrivé, vous alliez de Paris au Japon, puis de Japon, vous pouviez aller gratuitement en Corée, dans tous les pays du monde, puis vous repreniez votre tour. Donc, vous pouviez, le billet tour du monde, c'était très bien. Enfin, tout ça, c'est de la nostalgie. Donc, je veux dire par là, c'est que, les preuves s'accumulent. Vous voyez, d'abord, on s'est dit, le prix du pétrole qui monte, mais maintenant, on a cassé la moyenne mobile à 7 ans. Est-ce que ça va durer? J'en sais pas trop rien, mais enfin, si ça dure, ça va saigner. Donc, on commence à voir arriver les trucs toc, 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 mais on peut pas se mettre à la tête en disant ça se passe pas. Mais la beauté, c'est que le portefeuille qu'on a fait, pour l'instant, il tient la route.
Alors justement, et ça sera la dernière question, tu as Hortense qui te pose la question, qui vient de recevoir une somme importante, et elle ne veut pas racheter tout de suite de l'énergie et de l'or, parce que les deux ont beaucoup monté. Est-ce que tu penses qu'elle a tort? Est-ce que tu penses qu'elle a raison? Et seconde question, si elle n'investit pas en or et en énergie tout de suite, qu'est-ce qu'elle fait avec cet argent-là maintenant tout de suite?
Si elle veut pas...
Est-ce qu'elle se met
pas,
en...
Ne pas investir, c'est investir.
Donc alors, moi, est-ce qu'elle se prend du franc suisse? Est-ce que
je sais pas. Parce que moi, j'ai fait le meilleur portefeuille possible. Elle est en train de me dire qu'elle a la capacité, elle, de faire un meilleur portefeuille que ça.
Non, elle a pas envie d'acheter de l'or parce qu'il est très haut.
Mais il n'est pas très haut, c'est le reste qui a baissé.
Et elle veut pas acheter de l'énergie parce que c'est très haut. Tu penses que même...
il faut faire le portefeuille, parce qu'il est bâti comme un portefeuille en tout. Si elle achète le portefeuille d'aujourd'hui, elle aura du Japon très bas, deux actions asiatiques qui n'ont pas beaucoup monté, et puis elle achètera les deux autres impôts, mais ensuite...
ça c'est quelque chose, les gens quelquefois ne rentrent pas sur les quatre positions, ils rentrent sur une ou deux.
Ce qui est faux.
Et c'est pas comprendre ce qu'on essaie de faire. Et donc, et ensuite, ils me disent, je comprends pas mon portefeuille. Et quand je regarde avec eux, je me rends compte qu'ils ont pris que de l'or. Ou qu'ils ont pris, je dis, mais vous avez pas fait le portefeuille. Oui, mais c'est parce que je comptais y aller plus tard. Je dis, oui, mais.
Mais non, le portefeuille, c'est un tout. Donc, vous pouvez pas dire. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous savez, pour des raisons qui sont peut-être tout à fait normales, que votre portefeuille va faire mieux. Que le cash va faire mieux que le portefeuille. Par exemple, prenez depuis le début de l'année, on a ramassé des claques dans tous les sens, etc. Le portefeuille, tel qu'il a été bâti, l'or était monté, etc. Mais je crois qu'il est en hausse de 9 ou 10% depuis le début de l'année. C'est mieux que le cash.
Non, mais sinon, au pire du pire, Hortense peut toujours acheter une action, des actions totales qui donnent du 3,8 ou
Mais à ce moment-là, c'est plus la même chose.
C'est plus la même chose.
Si madame, si monsieur Trump arrête ses bêtises, aussi bien le prix du pétrole repasse à 60 et à ce moment-là, total, il perdra 25%, quoi.
Ouais.
Donc, si vous voulez, l'idée, c'est d'acheter un machin qui vous n'avez pas à prendre de décision de timing. Donc, moi, je sais pas faire le timing.
Oui, et puis c'est beaucoup trop. C'est un autre métier.
C'est un autre métier, faire du trading, je sais pas faire. Je sais à peu près bâtir des portefeuilles, ça m'a pris 50 ans. Donc maintenant, vous me demandez, est-ce que j'attends? J'ai aucune idée, mais moi...
J'attendrai pas.
Je sais pas, parce que...
Après, quelquefois, on peut avoir peur.
Alors vous décidez de... Je vais investir un tiers maintenant, un tiers dans 2 mois, et deux tiers, le deuxième tiers dans 2 mois, le troisième tiers dans 3 ou 4 mois. Ça, oui, pourquoi pas. Bon, mais ne croyez pas que le cash, c'est mieux que ce qu'on vous propose, parce que c'est pas le cas.
Voilà. Bon, je pense que ça, c'est une bonne réponse. Voilà, donc on aura fait un petit tour sur cet environnement énergie qui est le nôtre.
Mais qui devient de plus en plus important. Hein. C'est pas parce que tout le monde en parle que c'est devenu moins important.
Encore une fois, l'économie, c'est jamais que de l'énergie transformée. Donc à partir du moment où le secteur énergétique est ce qu'il est avec les guerres que M. Trump impose... qui, encore une fois, n'ont pas l'air de se stabiliser malgré ces incantations et ces danses de la pluie autour de la question. Donc, la BCE, tous les grands experts sont venus faire aussi d'autres danses de la pluie en disant qu'on allait devant une récession inflationniste. On va à l'avant d'une récession inflationniste. J'ai peur que la rentrée, comme d'habitude, ne soit sanglante.
Mais si on a une récession inflationniste en France... les dépenses budgétaires vont exploser, les recettes budgétaires vont s'écrouler, et je ne vois pas comment on s'en sort.
Alors, ils ont envoyé là des chèques énergie, qui est quand même la grande idée toujours de distribuer les tickets de rationnement. Mais c'est pas ça qui va aider.
Mais les chèques énergie, ils sont débités sur le budget.
Oui, bien sûr. C'est toujours pareil.
Donc, il est possible que cette crise énergétique accélère, dans le fond, la compréhension par les gens que l'Europe suit une politique qui est non viable.
Oui, mais tu remarqueras, j'ai entendu les Allemands dire qu'il était nécessaire d'aller vers plus d'éolien. Et c'est ce qu'a dit aussi Macron dans une conférence en disant l'inverse de ce qu'a fait Trump avec Total, de dire il faut... Non, c'était le cornu. Dire il faut qu'on avance... Il a dit justement, cette crise montre qu'on est trop dépendant du pétrole et il faut qu'on fasse encore plus de moulins magiques et de miroirs pour être indépendant énergétiquement. Alors qu'on sait tous que la seule façon de s'en sortir par le haut, c'est de sortir déjà du marché unique
Et de remettre le prix de l'électricité en France au prix où il devrait être.
Et le décorrélé du gaz.
J'ai vu un grand article qui m'a fait beaucoup de peine, où qui disait que les fours à pain ne se vendaient plus du tout.
Parce qu'ils sont trop consommateurs d'énergie,
donc on essaie de trouver d'autres façons de faire du pain. Mais je peux vous dire un truc.
Non, on va le faire avec quoi ?
Mais je sais pas, mais je sais pas comment il va être fait, mais ça va être dégueulasse.
Oui.
ça, je peux vous dire. Donc le prix du pain, du vrai pain, va augmenter dans des proportions phénoménales pour que ceux qui veulent du vrai pain, qu'ils aiment, ben, ils seront obligés de payer leur baguette 4 euros la baguette. Quoi. Je te signale que je le paye quand je vais à Londres.
Hein. C'est indécent les prix des croissants et des trucs à Londres. Je ne sais pas, ils sont fourrés au diamant, mais les prix sont indécents.
D'ailleurs à New York c'est pareil.
Ouais, ouais.
Donc voilà, la situation n'est pas sérieuse, mais...
Mais pas désespérée.
Oui, ou plutôt désespérée, mais pas sérieuse, comme disait Churchill.
Voilà. Bon, écoutez, on est content de vous avoir fait une petite mise à jour. N'hésitez pas à poser vos questions en dessous, on y répond. Et on vous dit à la semaine prochaine.
Alors, ça a été très financier, parce qu'en ce moment, on ne peut pas parler d'autre chose. On a essayé de parler de la DHD la semaine dernière. Vous allez la voir sur vos écrans.
Oui.
Parce qu'on a tellement marre de parler de ça, mais en même temps, c'est l'actualité qui s'impose, quoi.
Mais oui. J'aimerais bien parler de la violence faite aux femmes ou de la grossesse de Marine Tondelier, ce qui était quand même le sujet du jour.
Il y a des gars qui ont du courage quand même.
Reste une PMA.
Ah, c'est une PMA ?
Oui. Ah ben, bon, elle avait un problème de fertilité, donc elle a eu beaucoup de... Elle a 39 ans quand même, donc c'est pas... ça arrive. Et donc, elle a eu tout un parcours PMA, FIV, et un premier qu'elle a perdu est celui-là. Bon, je suis très contente pour elle, mais pourquoi est-ce que je suis au courant des ovaires d'une dirigeante politique ? Dans l'absolu, est-ce que c'est nécessaire ? Encore une fois, pipelisation de la vie politique, c'était peut-être pas... et je ne vois pas en quoi c'est nécessaire de parler de ces entrailles. Moi aussi, je peux vous parler des miennes, si vous voulez. Ça va passionner les foules. Voilà. Bon, bah, merci encore de nous avoir suivis, et on vous dit à la semaine prochaine.
Merci beaucoup.